Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Midi 13h15. André Berkoff.
Alors, l'arthrite des retraites, la retraite de l'arthrite, vous avez vu ? Les retraites, ça fait des mois qu'on en parle, Et là, on a mis reset. Édouard Philippe a dit, attention, fermeté, mais pas de démagogie, etc., etc. On en parle. Il paraît qu'on aura un projet de loi en janvier. Est-ce que ce sera en janvier, à Pâques ou à la Trinité ? Les retraites, c'est devenu le serpent de mer, le monstre du Loch Ness. Le 5 décembre, on descend dans la rue pour sauvegarder les régimes. Qu'est-ce qu'on fait ? Et qu'est-ce qui se passe vraiment ? Eh bien, on va parler à quelqu'un qui lance un joli pavé dans la mare. Et on va parler aussi, effectivement, d'une espèce, pas de charnier, mais d'un trafic des corps, des cadavres dans un soubassement d'hôpital. Nous allons parler aussi des grenades d'encerclement. Il y a beaucoup de choses qui sont à dire là-dessus. Chiappa, évidemment. Chiappa, Cherche-Ville, elle la trouvera, bien sûr. Et nous allons recevoir François Bernard Wig qui parle de la guerre idéologique en France. Et c'est passionnant.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio. Berkoff dans tous ses états.
Et quand les Français parlent aux Français en ce moment, ils parlent de plus en plus de quoi ? Des retraites. Eh oui, est-ce qu'ils vont être obligés, est-ce que nous allons être obligés de travailler plus longtemps, de cotiser plus pour moins de montants de cotisation, pour moins de montants de retraite ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va arriver à quel âge ? Âge pivot, retraite par points, cotisation, tout ça dans un ballet plus ou moins réglé, mais pas du tout bien réglé. Juste un mot. Les prévisions du Conseil d'orientation des retraites, eh bien, les derniers calculs, ils ne sont pas du tout réjouissants. D'après le COR, donc ce Conseil d'orientation des retraites, organisme tout à fait officiel, il manquera entre 8 et 17,2 milliards d'euros dans les caisses du système de retraite en 2025, soit entre 0,3 et 0,7% du PIB. En juin, dans son rapport annuel, le COR tablait sur un déficit d'environ 10 milliards d'euros en 2022. Et si l'on remonte à son précédent rapport annuel, le COR disait « Non, 5 milliards d'euros ». La moitié. Alors, on ne comprend pas du tout. Parce qu'en 2016, en plus, il envisageait même le COR, le COR, un retour à l'équilibre, dès le milieu des années 20. Et à l'époque, Emmanuel Macron, alors candidat à la présidentielle, en mars 17, disait « Le problème de la retraite dans les prochaines années n'est plus financier ». Et bien, un an plus tard, aujourd'hui, les évaluations du COR repoussent cette perspective à 2036, dans le plus optimiste des scénarios. Et puis là, une nouvelle année s'écoule et cet horizon s'éloigne encore un peu à 2042. Attendez, qu'est-ce qui se passe ? La clause du grand-père, on n'y comprend plus rien, on nous parle de projet et, il y a quelques jours, sur BFM Business, Gilles Raveau, maître de conférence à l'Institut d'études européennes Paris 8 Saint-Denis, eh bien, il nous dit, Gilles Raveau, j'ai écouté ça et j'étais, je dois dire, in my... Allez, je vais employer en anglais, in my asso, c'est-à-dire j'étais sur le cul, pour parler vulgairement, parce qu'il dit, Gilles Raveau, il y a 150 euros, 2 milliards de réserves sur les retraites. Monsieur Raveau, bonjour.
Bonjour.
Alors dites-moi, je vous ai écouté là avec Nicolas Dose, et c'était très fort ce que vous disiez, et comme on avait pratiquement, si c'est le moins que l'on puisse dire, très peu entendu ça, expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe exactement ? Quelles sont les sommes qu'il faut pour les retraites ? Et qu'est-ce qu'on a, monsieur le professeur ?
Ce qui se passe, c'est que l'action publique, même si elle est loin d'être parfaite en France, n'est pas toujours complètement nulle. Ça fait très longtemps qu'on sait qu'il y a un problème sur les retraites. Vous voyez, on a à peu près le même âge tous les deux, puisque j'ai 46 ans comme vous. Et le premier rapport, c'est le rapport Rocard, c'était en 91, j'avais 18 ans. Ouais. Donc ça fait 30 ans que l'action publique connaît les chiffres sur les retraites. Et donc, il y a des réserves qui ont été mises en place, à la fois par l'État, par Lionel Jospin à l'époque, oui. Et aussi dans les régimes privés complémentaires de retraite, ce qu'on appelle l'AGIRC et l'ARCO, qui ont fusionné maintenant. Oui. Et en fait, il se trouve que ces retraites, ces réserves, pardon, elles ont été accumulées. Aujourd'hui, effectivement, le corps le dit, mais il le dit dans des endroits un peu cachés, etc. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai lu un article sur Alternative Économique qui renvoie à toutes les références des rapports du corps, etc., qui nous explique qu'il y a effectivement au moins 150 milliards de réserves pour les retraites, 150 milliards d'euros, alors que vous voyez, vous pouvez comparer effectivement au déficit qui est annoncé. Vous avez vu que le gouvernement cite toujours le pire chiffre en disant 17 ou 18 milliards. Quand vous regardez, c'est assez bien fait si vous allez sur le site du corps, vous avez du mal à vous endormir le soir, vous allez sur le site du Conseil d'orientation des retraites, il y a leur dernier rapport et il y a des résumés très courts avec quelques tableaux, et vous verrez que il y a tous les scénarios qui sont proposés, et la plupart des scénarios sont entre 8 et 10 milliards, évidemment, de déficit. Et évidemment, le gouvernement a choisi le pire scénario, le 17 milliards, et il fait peur à tout le monde avec ça, alors qu'effectivement, il y a un déficit des retraites, c'est exact, mais il n'y a aucune urgence à réformer, contrairement à ce qu'affirme le gouvernement. Il n'y a aucune urgence.
Oui, mais c'est énorme, c'est un pavé dans la mare, ce que vous dites, Gilles Rabeau. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Institut d'études européennes.
Oui, mais parce que, l'erreur qu'on fait tous, mais qui est tout à fait logique, c'est que les retraites actuelles, effectivement, sont relativement importantes en France. Ce qu'il faut quand même bien dire, c'est que le montant des retraites, c'est pas l'argent de l'État. Donc en fait, il y a un gros problème démocratique, c'est que l'État n'a pas, en fait, à s'occuper des problèmes des retraites qui sont gérés par la Sécu. Il y a beaucoup de Français qui voient pas la différence, mais l'État et la Sécu, c'est totalement différent.
C'est pas la même chose,
Voilà, c'est notre argent, les retraites. Et les gens qui touchent des grosses retraites aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont beaucoup cotisé. Le système des retraites, il n'y a aucune redistribution des riches vers les pauvres dans les retraites. C'est pas vrai. Vous avez un gros salaire, vous cotisez beaucoup, vous avez une grosse retraite. Vous avez un petit salaire, vous êtes au chômage, vous avez une retraite de misère. Et ce qui s'est passé ces dernières années, et les gens le savent, c'est qu'il y a eu plein de réformes des retraites déjà. Donc les retraites ont vachement baissé. Et les retraites à l'avenir vont être beaucoup plus faibles que celles des retraités actuels. Mes parents sont à la retraite depuis 10 ans, ils touchent chacun plus que moi, qui suis universitaire, prof à la fac et qui ai 20 ans de carrière. C'est cool pour eux, mais vous voyez bien que moi, je n'aurais pas du tout la même retraite au même âge. Les réformes ont déjà été faites. Le sale boulot a déjà très largement été fait. Et d'autre part, on voit bien que c'est comme une absurdité incroyable. On a les vrais chiffres du chômage, c'est au moins 5 millions de personnes en France aujourd'hui. D'un côté, des gens qui galèrent de ouf, qui n'arrivent pas à bosser, à vivre juste dignement, mais même avec un tout petit salaire. Et d'un autre côté, on nous dit, vous devez tous travailler jusqu'à 70 ans, comme si on choisissait l'âge de départ à la retraite. Et le problème, c'est que les gens qui font ces réformes au gouvernement, eux, ils aiment leur boulot, ils l'ont choisi. Ils ont des boulots qui, contrairement à ce qu'ils pensent, sont faciles, des boulots qu'ils aiment. Et eux, ils peuvent travailler tant qu'ils veulent parce qu'ils choisissent leur boulot. Et il y aura toujours des gens pour leur filer de la thune, pour les embaucher, pour faire des rapports, des conférences, des boîtes privées, etc. Mais la grande majorité des salariés, ils ne choisissent pas leur âge de départ à la retraite. Et c'est très connu qu'en France, les boîtes à partir de 50 ans vous mettent une pression de dingue pour vous lourder. Aujourd'hui, en France, juste une dernière statistique et après j'arrête. Aujourd'hui, en France, parmi les gens qui ont 60 ans, d'accord, seulement 60 ans, il n'y en a même pas, parmi les gens de 60 ans, il n'y en a même pas la moitié qui travaille aujourd'hui en France.
Même pas la moitié, à 60
même
ans.
Même pas la moitié.
Mais alors,
même pas la moitié.
Dites-moi, alors, on vous écoute et je vous écoute, et on se dit, mais alors, toute cette polémique, tous ces plans qui sont annoncés encore pour janvier, le 5 décembre, on va redescendre pour ou contre des régimes spéciaux, que ce soit les avocats, les médecins, la RATP, la SNCF, tout ça, on voit un salmigondi, un flou, et où je ne sais pas qui retrouverait ces petits. Alors, et tout ça, et là, vous nous dites, il y a 150 milliards d'euros de réserves. Alors, est-ce qu'il faut faire quelque chose quand même, ne rien faire ou pas, à votre avis ?
Et moi, je pense qu'effectivement, il faut faire quelque chose, puis qu'il y a un déficit qui est prévu. Je vous dis, moi, ma solution, elle est hyper basique, c'est ce que tout le monde raconte. On a quand même une jeunesse qui est dans la rue avec le changement climatique, on ne fait strictement rien. Enfin, il y a quand même des chantiers colossaux à lancer qui, en plus, sont rentables pour l'État. On a des millions de familles qui ne sont pas logées en France aujourd'hui, qui sont très mal logées. Ces familles, elles ne demandent pas à être logées gratuitement. Elles demandent à être logées dans des logements décents en payant un loyer correct. On est capable en France de faire des TGV, de faire des Airbus. On n'est pas capable de construire des logements. La Fondation Abbé Pierre se bat comme des diables depuis des années, personne ne les écoute. On a des problèmes d'urgence, je travaille dans une université, j'accueille mes étudiants dans des conditions dramatiques, je ne peux pas bien les préparer à demain. On a des énormes problèmes d'échecs scolaires, etc. Pourquoi est-ce que, si vous voulez, la question à laquelle vraiment j'ai pas la réponse, c'est pourquoi ce gouvernement, qui a été élu sur une absence de programme, en disant, nous on est des gens pragmatiques, on écoute les scientifiques, on apporte les réponses, n'écoute pas les scientifiques.
Tout le monde,
tous les économistes un peu sérieux le savent. Tout le monde le dit.
Mais alors pourquoi, dites-moi juste un mot, pourquoi le corps, le COR là, pourquoi il donne, chaque année, il donne des chiffres différents par rapport à ce qui manquera dans les caisses du système. Une fois c'est 10 milliards, une fois c'est le gouvernement.
Ça c'est celui d'économie, parce qu'il fait différentes hypothèses. Donc effectivement, quand vous faites différentes hypothèses, vous avez différents résultats. D'autre part, le corps, effectivement, ne connaît pas l'avenir. Et puis, vous voyez, il y a un truc qui est absurde. Vous voyez le dernier rapport du corps, ils nous font tranquillement, les gars, des projections. Dans 50 ans. Oui. Et dans 50 ans, au rythme actuel, André Bercoff, on va se battre pour la bouffe et pour la flotte. Mais personne ne va parler du déficit des retraites. Vous avez vu l'effondrement écologique de notre monde. Il y a une étude qui est sortie il y a quasiment plus d'un siècle.
Enfin, c'est encore autre chose, ça. Non, mais vous avez raison.
Oui, c'est autre chose. Mais si vous voulez, l'urgence, puisque le gouvernement n'a que ce mot d'urgence. Excusez-moi de finir avec ce jeu de mots pourri, mais l'urgence aujourd'hui en France, il est aux urgences dans les hôpitaux. C'est des sommes qui sont 10 fois moins importantes.
Et comme vous dites, et les SDF, et les mal logés, etc.
C'est ça. Exactement.
Mais écoutez, Gilles Ravoux, merci pour ces éclaircissements. Mais je trouve que c'était très important dans cette espèce d'hallucinante palabre et vraiment chicaya autour des retraites, de rappeler que quand même, il y a de l'argent dans les caisses et qu'il faut arrêter de dire n'importe quoi.
Et je rappelle, Gilles Ravoux, que vous êtes professeur d'économie et auteur de ce livre, Économie, on n'a pas tout essayé. C'est publié aux éditions du Seuil. Les amis, vous écoutez Bercoff dans tous ses états sur Sud Radio. Est-ce que vous allez manifester le 5 décembre contre la réforme des retraites? Est-ce que vous pensez qu'il y a urgence à réformer à nouveau les retraites ou pas, allonger la durée de cotisation, par exemple, ou à travailler plus longtemps, cotiser plus, je ne sais pas. Donnez-nous vos pistes. Tiens, 0826-300-300, on vous donne la parole à partir de 13h sur Sud Radio.
Sud Radio, André Bercoff.
Ça balance pas mal.
Bercoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio.
Arthur, où t'as mis le corps?
C'est crié l'inspecteur.
Je sais plus où s'est foutu le mec. Arthur, réfléchis, non de là. Ça a une certaine importance.
Eh oui, ça a une certaine importance, comme chantait Serge Reggiani. Surtout, ça a une certaine importance quand on a découvert récemment des photos absolument sordides datant de la fin 2016. L'Express, les journaux de l'Express révèlent ça. Des dizaines de cadavres pourrissant au centre du don des corps de l'université René Descartes, rue des Saints-Pères, à Paris, dans le 6e. On voit quand même hallucinant des corps d'hommes et de femmes abîmés, démembrés, décomposés, qui s'amoncellent à cet étage. C'est incroyable. Ça a été, alors, ce sang du don des corps, c'est très très bien. Au départ, c'est écrit en 53. Ça avait la particularité de proposer des corps frais qui n'ont jamais été congelés ou conservés dans du formol. L'argent récolté au travers des dons est utilisé pour prendre en charge le corps dans de bonnes conditions jusqu'à son utilisation. Eh bien, depuis ce temps, donc depuis 60 ans et plus, eh bien, ce centre n'a jamais été modernisé et il est dans un état absolument incroyable. Chambre froide sujette à panne, non sécurisée, ventilation défaillante, canalisation bouchée.
C'est lamentable.
C'est quand même hallucinant. Je ne veux pas vous faire perdre l'appétit, mais franchement, quand vous voyez les photos, c'est terrifiant. Il fait une chaleur épouvantable, ça pue, on a l'impression d'être au 19e siècle ou à la Renaissance. Alors voilà, il y a des gens qui ont démissionné, tout ça. Il y a un budget qui a été débloqué pour mener les travaux de rénovation. Ceux-ci doivent débuter en 2020, mais vous imaginez, en France, en 2019, il y a cette espèce d'atmosphère épouvantable. Mais il y a pire, parce qu'il y a un autre scandale, aussi à la faculté René Descartes. Les membres et les organes des corps entreposés seraient monnayés, et ce, en violation des règles éthiques entourant le don du corps à la science. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font la marchandisation, qui les vendent, ces corps, c'est terrifiant. Ben, on espère vraiment qu'un peu d'ordre, un peu nettoyer ces véritables écuries d'Augias, c'est voilà, un charnier en plein Paris, à l'université René Descartes. On espère que tout ça va être nettoyé le plus vite possible.
Sud Radio, Bercoff dans tous ses états. Lanceur d'alerte.
Motivé, motivé, il faut rester motivé. Motivé, motivé, il faut se motiver.
Eh oui, en tout cas, il y a, comme disait Bdam, il y a un médecin, lui, qui a été motivé. Et le canard enchaîné vient de le rappeler, là, il y a quelques jours. Parce qu'il faut parler de cela, on en parle comme ça, on dit, est-ce que c'est vraiment létal ou pas? Vous savez, ces fameuses grenades, ces LBD 40, etc. Eh bien, il y a un professeur émérite, ce n'est pas un gauchiste, ce n'est pas un gilet jaune, il est ancien chef du service d'ophtalmologie de l'hôpital Lariboisière. Alain Gaudry a raconté, il y a quelques jours, comment il a essayé depuis des mois, avec d'autres spécialistes, d'alerter les présidents de la République sur les blessures oculaires graves provoquées par les violences policières. En vain pour l'instant. Il a écrit à Emmanuel Macron, pas de réponse. Il rend sa lettre publique, puis demande un rendez-vous à Agnès Buzyn, pas de réponse. Il publie une étude sur la dangerosité des LBD et des grenades des encerclement dans la revue médicale britannique The Lancet. Je rappelle que The Lancet est une des plus prestigieuses revues du monde. Eh bien, le 7 novembre, il est finalement reçu au ministère de l'Intérieur. On dit il semblait ennuyé qu'on donne cette publicité à ces blessures graves et que cela vienne de médecins. C'est quand même terrifiant. Et ils l'ont dit, il est trauma oculaire constaté depuis 2018, donc depuis le début des manifestations des Gilets jaunes. Le professeur Alain Gaudry a réclamé l'ouverture d'un moratoire sur l'usage des LBD et des grenades de désencerclement. Et il n'est pas le seul. Beaucoup de médecins, plusieurs médecins ont dit, attendez, halte au feu, halte au massacre. Que l'on maintienne l'ordre, que l'on réprime, que l'on sanctionne, évidemment, quand il faut le faire. Mais attention, on sait très bien combien d'éborgnements il y a eu, et il dit, c'est pas possible. On s'est rendu compte de l'ampleur du phénomène, dit le professeur Alain Gaudry, en interrogeant les centres d'urgence à Paris avec les retours des confrères de province. Du jamais vu. C'est là où il a décidé d'écrire au chef de l'État. Et à ce moment-là, il y avait une vingtaine de cas, etc. Voilà. C'est assez terrifiant quand même. Alors ça les embête qu'on parle, surtout que ça vient de médecins, vous comprenez, quand c'est des polémistes ou des éditorialistes ou ceci, cela, ça va, c'est des polémiques. Mais quand c'est des médecins et ils ne parlent pas en l'air, ces médecins-là, eh bien c'est grave. Eh bien il serait temps de lever effectivement cet aveuglement volontaire. Et quand je dis aveuglement, ce n'est pas un mauvais jeu de mots. Et franchement, se pencher là-dessus. Quand des médecins sonnent le tocsin, sonnent l'alarme, c'est qu'il y a quelque chose de pourri dans le royaume du Danemark.
0-826-300-300. Vous nous appelez pour réagir au sujet abordé dans l'émission, la réforme, la manifestation à venir contre la réforme des retraites, le gros rendez-vous, le mur du 5 décembre, comme on l'appelle au sein du gouvernement. Est-ce que vous allez manifester ou pas? Vous revenez aussi, d'ailleurs, aussi bien sur ce scandale dans l'université René Descartes à Paris, ou alors sur ce moratoire, pourquoi pas, contre les grenades et les lanceurs de balles de défense. On vous donne la parole à partir de 13h sur Sud Radio.
Radio. Les Français parlent aux Français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
Une personne qu'on attend partout en France pour se présenter aux municipales. On l'attend partout. Des étudiants attaqués par des soi-disant progressistes. Des véganes qui vont retirer un tableau de maître. Et enfin, un politologue renommé, François-Bernard Wig, qui va nous parler de la guerre idéologique en France. Et elle bat son plein.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Les perles du jour.
J'attendrai le jour et la nuit. J'attendrai toujours.
Ah oui, Lucienne de Lille. Mais vous savez qu'elles sont nombreuses. Elles sont plus que nombreuses. Elles sont des dizaines, des centaines de villes. À attendre qui ? À attendre quelqu'un qu'elles espèrent, qu'elles voudraient à leur tête pour les prochaines municipales et qu'elles restent longtemps. Qui ? Écoutez.
Honnêtement, je ne sais pas encore si je serai contente. Je soutiens Benjamin Griveaux. J'ai terminé ma journée hier à partir de 22h30 au grand quartier libre géant organisé par Benjamin Griveaux. Il y a beaucoup de monde, beaucoup d'enthousiasme.
Oui, mais vous...
Je soutiens son projet. Moi, honnêtement, sincèrement, les derniers mois, j'étais vraiment sur le Grenelle des violences conjugales avec pas une seconde de temps de cerveau disponible pour m'interroger sur ma candidature. Maintenant, je vais commencer à y réfléchir.
Donc, c'est pas acté.
C'est pas acté. Il y a beaucoup d'endroits en France très intéressants.
Mmh. Ah bon? Comme quoi?
Bah moi, je suis élue du Mans. Je suis élue du Mans. Je suis originaire de Corse. Je suis attachée au destin de Lille, qui est mon île familiale. Je suis aussi très attachée à Paris, où je suis née, où je vis.
Ah oui, il y a plein de possibilités pour vous, Marlène Schiappa, pour être candidate à la municipale.
La vie est une succession de possibilités.
Exact, Marlène Schiappa, voilà. C'est vrai qu'il y a énormément d'endroits où effectivement on l'attend, c'est vrai. Et elle a raison, la Corse, Lille, Paris et autres. Bon, écoutez, vous savez les conditions, elle les a toutes. Avoir 18 ans révolus, pas de problème. Être de nationalité française, pas de problème. Avoir satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement de l'armée, ça... Encore moins de problèmes, être électeur dans la commune. Alors là, il faut voir, effectivement, il faut choisir. Alors voilà, elle a l'embarras du choix ou pas. Ça va être intéressant. Alors je vais vous dire, auditeurs de Sud Radio, dites-moi, vraiment. Alors là, allez, on va faire un référendum d'initiative populaire. Souhaitez-vous que Marlène Schiappa se présente dans votre commune? Dites-le nous et on va demain ou après-demain revenir là-dessus. Souhaitez-vous Marlène Schiappa? Est-ce qu'elle vous représenterait pas de manière glorieuse et incontestable? Dites-le nous et on va enregistrer. Et à très vite.
Mais dites-le nous au 0826 303 soir. Dès maintenant, vous nous appelez, vous nous dites si vous voulez que Marlène Schiappa se présente chez vous. Et on vous donne la parole dans une demi-heure sur Sud Radio.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états.
Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir.
Ouais, on n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Et franchement, il y a des choses où on n'a pas envie de rire. Comme dans la chanson de Daniel Balavoine. À Rennes, voilà, il y avait une réunion publique de l'étudiant libre, un magazine, dit à droite, mais un magazine comme d'autres magazines étudiants. Ils avaient organisé, mercredi, hier, une présentation autour d'un verre, à Rennes, en Bretagne. Eh bien, vers 20h40, une poignée de militants antifascistes, disent-ils, ont attaqué les jeunes présents à coups de jets d'acide et de projectiles. Il y a eu un blessé dont l'un est très sérieusement brûlé à l'œil et a été amené à l'hôpital. Dites-moi, moi je voudrais comprendre, antifasciste c'est un très très beau mot, vous savez. Ça voulait dire quelque chose le fascisme dans les années 30, dans les années 40, etc. Mais est-ce que c'est de l'antifascisme quand il y a une réunion absolument paisible et politique de quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, d'aller l'attaquer à coups de jets d'acide et de projectiles? Ça, excusez-moi, ça s'appelle du fascisme, qu'il soit de gauche ou de droite, ça s'appelle du fascisme. Si on n'est pas capable de discuter autrement que par les projectiles et du mortier pour d'autres, et ceci, quoi, demain ça va être les armes? C'est quoi ça? Ce n'est pas possible. Écoutez, le bar a été saccagé, il y a une cagnotte qui est ouverte, franchement, c'est pas possible. On ne peut pas accepter ça, que ce soit de n'importe quel bord. Là, c'était l'étudiant libre, pour n'importe quel bord. C'est inadmissible. On ne se bat pas comme ça. On se bat à coups d'arguments et pas à coups de tessons de verre et d'acide. Ça, en tout cas, ça s'appelle du fascisme. Et c'est tout.
Et du coup, on en parle avec l'organisateur de cette soirée qui a été attaqué. Guy Alexandre, bonjour à vous. Vous êtes sur Sud Radio.
Bonjour monsieur Berkov.
Oui, bonjour. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'il y a eu? Alors exactement, où s'en est d'abord votre collègue ou qui a été touché à l'œil?
Alors notre collègue, heureusement, Dieu merci, son œil est un petit peu touché, brûlé, parce qu'en fait c'est ça, il a reçu un jet d'ammoniac au visage.
D'accord.
C'était véritablement le visage qui était visé. Ouais. Donc là, on voit vraiment la marque, la volonté d'une mutilation absolument certaine.
Mais dites-moi, ça s'est passé comment? Vous étiez en train de mener votre réunion, et puis un groupe est arrivé, comme ça, ils ont attaqué directement, comme ça, ou qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, c'est ça. Nous, initialement, je voulais organiser un apéritif,
ouais.
Parce que le but de l'étudiant libre, c'est de développer des idées et favoriser le débat pour les jeunes engagés au service de la France.
Ouais.
Et donc, moi, j'avais organisé dans un bar un petit apéritif au sous-sol pour leur parler... pour parler à ceux qui voulaient de ce journal.
D'accord.
Et en réalité, on a appris quelques heures plus tard que un groupe d'antifa s'était véritablement organisé sur les réseaux pour aller directement nous attaquer au bar.
Ouais.
Et donc c'est ça. Donc eux, ils sont arrivés et ben justement la personne qui était touchée à l'œil était en train de fumer au moment où ils sont arrivés.
Ouais.
Donc lui était véritablement en première ligne.
Ouais, je comprends.
Mais voilà, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à retourner toutes les tables et toutes les chaises, à les amasser devant le bar.
D'accord. Et ils ont donc, il y a eu une castagne, et vous, vous étiez en bas, vous étiez au sous-sol à ce moment-là.
Exactement. Ouais, exactement. À ce moment-là, je présentais l'étudiant libre, et eux sont arrivés avec des bouteilles de verre.
Et ça a duré longtemps, l'affrontement ?
Alors, ça a été plutôt rapide, vraisemblablement. Ça a dû durer 2-3 minutes.
Et la police est venue ? Vite.
La police est venue parce que les pompiers sont arrivés soigner le jeune qui a été touché. Oui.
D'accord. En tout cas, écoutez, merci de votre témoignage, mais encore une fois, c'est totalement inadmissible. On ne peut pas tolérer, ou alors on devient ce que justement les soi-disant antifascistes redoutent, on devient une dictature. Alors, si on veut utiliser les armes de la dictature et de l'intolérance pour gagner, eh ben, c'est pas comme ça qu'on fait. Merci en tout cas de votre témoignage.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états.
Je suis vegan et je le reste. Moi, les viandards, je les déteste. Le sans gluten, c'est ma routine. Moi, je cuisine l'algue marine.
Ah, j'adore, je suis vegan. Ah, c'est beau d'être vegan. Et c'est beau, et vous savez, ça se relie quelque part à ce dont on parlait avant en beaucoup plus... Heureusement, beaucoup plus comique et ironique. Il y a eu une chose de formidable, voilà. Eh bien, il y avait un grand banquet, à Cambridge, à l'université de Cambridge. Hein. Eh bien, à Hughes Hall, il y avait une réunion d'étudiants vegan, voilà. Et il y a une peinture du 18e siècle, je dis un 18e siècle, très belle peinture où il y a effectivement, c'est un tableau de chasse où il y a un homme avec des chiens de chasse et puis des animaux que l'on va manger qui sont pas dépecés.
Mais du enfin, gibier, sont, quoi.
Ouais, un bon gibier, voilà, du 17e. Eh bien, quand les étudiants végans ont vu ça, ils ont eu pratiquement une crise cardiaque. On dit, il n'est pas question qu'on fasse une réunion devant ce tableau terrible. Et ils ont dit, on ne reste pas là, on s'en va si vous ne l'enlevez pas. Je rappelle un tableau de fin 17e siècle, début 18e siècle. Eh bien, Cambridge, le recteur de l'université, en tout cas le personnel, a enlevé le tableau pour satisfaire ses étudiants véganes. Ça s'appelle quoi ? Eh bien, je vais vous dire. D'abord, ça s'appelle une imbécilité uchronique, parce qu'il faut quand même se remettre dans l'époque et dans le temps, qu'ils oublient. Et deuxièmement, qu'une autorité universitaire, comme ça s'est passé pour François Hollande à Toulouse, pour... Sophia Gazinski, pour un certain nombre de gens, dès qu'il y a, absolument Sophie, dès qu'il y a quelque chose comme ça, je veux dire, on n'est pas d'accord, eh bien voilà, il faut empêcher, il faut interdire, il faut enlever. Ça aussi, excusez-moi, ça s'appelle du fascisme, un fascisme moins grave et moins violent, mais c'est quand même une espèce de politiquement correct qu'on ne peut plus supporter.
Allez, halte à la censure, en tout cas sur Sud Radio. Je rappelle que vous nous appelez au 0826 300 300 pour qu'on vous donne la parole dans à peu près 20 minutes avec André Berkov pour réagir aux différents sujets qu'on a abordés dans l'émission. Dans quelques instants, place à l'invité d'André Berkov, on recevra François-Bernard Huyghe, qui est essayiste et qui nous présentera son livre « L'art de la guerre idéologique ». C'est publié aux éditions du Cerf. À tout de suite sur Sud Radio.
Ici Sud Radio. Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états.
La guerre idéologique en France, où en est-on ? Est-ce que ça a atteint son acmé ou on est encore au début ? On en parle tout de suite.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le face-à-face.
Et on en parle avec l'invité d'André Berkov. On accueille tout de suite sur Sud Radio François-Bernard Huyghe, essayiste et auteur de ce livre « L'art de la guerre idéologique ». C'est publié aux éditions du Cerf.
Alors, François-Bernard Huyghe, on va parler d'actualité. Bonjour. Quand, effectivement, des étudiants se réunissent pour parler et qu'ils sont attaqués par des antifas, comme ils se nomment, quand on voit en Angleterre que des étudiants véganes ou des jeunes véganes refusent absolument de s'asseoir ou d'être dans une salle où trône un tableau du XVIIe siècle, je rappelle, fin XVIIe siècle, qui est un tableau de chasse, comme il y en avait des centaines à l'époque un peu partout en Europe. Qu'est-ce que ça traduit ?
Alors, ça traduit ce que vous avez très bien dénoncé, un mépris de la liberté. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose qui est intéressant. Il y a un retour de la censure. Elle vient plutôt, pas de milieu conservateur, mais de milieux qui se disent progressistes, ce que j'appellerais plutôt la post-gauche.
Oui.
Et elle vient sur un modèle un petit peu américain, où les étudiants, au nom de leur sensibilité religieuse, sexuelle, ethnique,
genrée,
on peut faire une liste jusqu'à demain,
oui.
Se donnent le droit d'interrompre des conférences ou des expositions parce que leur sensibilité en serait choquée. Alors, on est dans les exemples grotesques. Sylviane Agacinski, je la connais, je l'ai vue dans des débats, cette femme est tout sauf une extrémiste, enfin soyons sérieux, ou encore, je ne sais plus quel musée, où on parle de retirer des œuvres de Gauguin, pourquoi ? Parce que Gauguin se tapait des petites Tahitiennes. Hein, voilà, voilà. Alors, si on va par là, je rappelle que Picasso admirait beaucoup Staline ou que Baudelaire se droguait. Hein,
Que Céline était antisémite.
Bon, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est pas qu'on soit devenu hyper moraux parce que quelqu'un s'intéressait aux petites filles ou à des idées, mais c'est qu'on le fait au nom d'une sensibilité de ceux à qui une opinion inverse ou une représentation inverse, même de viande, serait insupportable. Donc, on rétablit un peu la crime-pensée.
Mais alors, justement, François-Bernard Huyck, comment ça s'inscrit dans cette guerre idéologique dont vous parlez ? C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose d'assez... On prend le... Mais quand même, ils ne pensent pas, tous ces gens-là, qui pensent effectivement à leur clan, à leur direction, et les autres n'ont pas le droit d'exister. Qu'est-ce qui fait que passe aujourd'hui, ou en tout cas est tolérée, une perte de la liberté d'expression, non seulement ça, mais que les gens qui ne pensent pas comme vous soient éliminés des médias, des lieux de parole, etc.
Alors, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Donc, un des premiers, c'est cette espèce d'américanisation de la vie intellectuelle.
Mais pourtant, excusez-moi, mais en Amérique, regardez avec Trump, les médias, je vais exprimer l'expression, le conchi du matin au soir son élection, je veux dire, et ça passe.
Alors, c'est peut-être parce qu'il le conchit du matin au soir qu'il a été élu, qu'il est l'ennemi des bobos de la côte Est ou des médias, et c'est peut-être à cause de ça qu'il sera réélu, mais ceci est un autre débat. Donc, on voit cette réclamation, cette indignation permanente. Alors, les réseaux sociaux contribuent beaucoup à ça, en permettant à chacun d'être un petit Jean Moulin ou un petit procureur.
Jean Moulin avant.
Voilà. Y a ce facteur-là. Il y a un éclatement idéologique. Il y a une spécialisation. Hein. On peut se spécialiser dans la cause féminine, dans la cause des LGBT, dans la cause des animaux. Et au nom d'une souffrance... souffrance des femmes, souffrance des travestis, souffrance des animaux, souffrance de la nature, on peut en faire jusqu'à demain, demander une interdiction. On n'a pas le droit de dire ça. Donc, moins on est structuré idéologiquement, moins on a une représentation complète, comme a pu être le marxisme à une époque, plus on est fixé sur un point, plus on a tendance à dénoncer violemment l'autre pour des crimes qui seraient des crimes, je dirais, spirituel, hein. Voilà. Vous, c'était pas. Prenons l'exemple de Polanski.
Oui.
Pourquoi a-t-il été indiqué ? Parce que bon, il a très 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 vraisemblablement fait des choses très très très, très immorales. Il y a 40 ans, personne ne le conteste, mais on l'accuse de répandre une idéologie du viol. Ça serait moins pour sa sexualité que pour ses idées qu'il serait condamné.
Arrêtons-nous en quoi la projection d'un film que j'ai vu qui s'appelle J'accuse, qui est un très bon film sur l'affaire Dreyfus. Je comprends qu'on puisse dénoncer telle ou telle action, mais aller jusqu'à dire qu'il faut interdire le film de Polanski et l'enlever, comme il a été presque question des cinémas...
Il y a des cinémas qui ont déprogrammé, oui.
Absolument. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire, en fait, que comme il n'y a plus... vous avez dit même d'idéologie ou de structuration, chacun parle pour sa paroisse, mais plus que ça, c'est ça qui me frappe aujourd'hui, François-Bernard Huyck, et vous l'analysez dans votre bouquin, veut éliminer les gens qui ne sont pas d'accord.
Oui, voilà. Alors, chacun parle au nom de sa paroisse, au nom de sa communauté, au nom de sa cause qui lui paraît absolue, et effectivement, il demande très vite l'interdit de l'autre, parce que si on est dans une France fractionnée où chacun a sa cause et son indignation, il n'y a plus de lieu commun où on peut débattre. Il y a un truc où on peut s'affronter pacifiquement qui s'appelle la démocratie, entre parenthèses.
Oui, quand même.
C'est fait pour qu'on puisse s'affronter pacifiquement.
Excusez-nous peu. Oui.
Voilà. Alors, donc, on voit ces mouvements qui se développent avec une envie de pénal, hein, comme disait notre ami Muret, et qui pense au fond que d'où viennent les problèmes, ils viennent de ce que l'autre, en général le mâle blanc de plus de 51 ans, oui, hétérosexuel,
le fameux mâle blanc hétérosexuel,
nous faisons partie de la catégorie tous les deux,
ce galeux d'où nous vient tout le mal,
voilà, commet au fond des crimes spirituels, il serait dans un, c'est très net dans le discours indigéniste, au fond, il serait plein de préjugés, de mauvais sentiments qu'il faudrait extirper et non pas discuter.
Oui,
alors,
oui,
ça, c'est un des actes du conflit idéologique. Alors, il y
et
en
l'autre.
A...
Alors justement, quel est aujourd'hui, en 2019, on ne peut pas tout dire, je renvoie d'ailleurs vraiment aux éditeurs Sud Radio, lisez ce livre est passionnant parce qu'il donne bien ce concept, il le formule très bien, dans la guerre qu'on est. Alors, cette guerre aujourd'hui, pour résumer un peu, on va schématiser, mais François Manrubic, il oppose quel clan à quel clan, du moins en France.
Le haut et le bas.
France d'en haut, France d'en bas.
France d'en haut, France d'en bas. Alors, après, on peut rentrer dans des définitions beaucoup plus fines de ce qu'est la France d'en haut, France d'en bas, gilets jaunes contre bobos, France périphérique contre France centrale. Il y a des déterminants sociologiques dans tout ça. Géographique aussi. C'est lié au niveau d'éducation, c'est lié.
Pardon, il n'y a pas de problème, c'est très bien. Il faut
un petit chat dans la gorge.
Mais alors, justement.
Je viens de chasser.
Cette opposition, vous savez, vous parlez dans votre livre, on en a parlé beaucoup, la sécession des élites d'un côté, qui se renferment dans leur camp à soi, les populations, et puis vous dites vous-même. En fait, gauche et droite, ce n'est plus du tout. Si c'est pas fini, en tout cas, ça n'a plus le même
sens. Ça ne sera jamais fini, ne serait-ce que comme mythe ou comme sentiment identitaire, et parce que nous appartenons tous à une famille de gauche, famille de droite. Ça fait partie d'une identité de se référer magiquement à gauche et à droite, même si, très honnêtement, dans les pratiques
ça
politiques,
ça ne veut plus dire quelque chose.
La différence entre la politique de Sarkozy et celle de Hollande, c'était 3% d'impôts de plus ou 3% d'investissement de plus là.
Enfin, même celle de Mitterrand et Giscard, je dirais.
Là n'est pas la question. Alors, on a une opposition au bas. Bon, vous allez me dire, Karl Marx l'avait dit. Mais c'est plus la vieille lutte des classes entre possesseurs des moyens de production et ceux qui n'ont que leur force de travail est devenue beaucoup plus culturelle. Elle touche à des éléments. Alors, il y a eu plein de bons livres qui sont sortis, celui de Fourquet, Sainte-Marie. Enfin, il y a des très, très bonnes analyses sociologiques.
Mais alors, justement, aujourd'hui, François Bernard-Huyghe, la France d'en bas, la France d'en haut, c'est un véritable affrontement.
Alors, c'est un affrontement. On va prendre le cas le plus évident, qui est celui des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes incarnent cette France d'en bas. On le voit géographiquement, on le voit par leur niveau de diplôme, on le voit par leur façon de s'habiller. On le voit par leur vote qui se divise entre le Rassemblement national, la France insoumise et l'abstention, tout sauf Macron. Ou les partis libéraux. Donc, cette France d'en bas, elle s'est révoltée d'abord pour des causes hyper matérielles, voire matérialistes, quelques centimes, puis c'est très vite devenu un discours politique. Nous sommes mal représentés, nous voulons de la démocratie directe, mais c'est aussi devenu... Alors, je veux dire, les gens sont, comment dirais-je, pas de plus en plus lucides idéologiquement, mais pensent de plus en plus en termes de lutte idéologique. Je m'explique. Les Gilets jaunes disent « les médias nous mentent ». On ne va pas citer des noms de vos
les
concurrents, mais
mentent,
certaines chaînes sont entre les mains des bobos libéraux vendus à Macron. Ils nous cachent la réalité, ils nous cachent notre misère, etc. C'est la révolte des élites, magnifiquement décrite par Christopher Lage. Donc les gens d'en bas ont le sentiment d'être opprimés aussi idéologiquement, et ceux d'en haut sont aussi très inquiets de ceux d'en bas qui vont qualifier de populistes, complotistes, etc. extrémistes.
François Bernard-Huyghe, vous restez avec nous, on va continuer cette passionnante discussion.
Et on va continuer à parler de ce livre, notamment L'art de la guerre idéologique. C'est publié aux éditions du Cerf, signé de notre invité François-Bernard Huy, qui reste avec nous. Les amis, vous nous écoutez sur Sud Radio, vous nous appelez au 0826-300-300. André Berkoff vous donne la parole en compagnie de son invité dans quelques minutes, juste après les informations. A tout de suite sur Sud Radio.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
Eh bien oui, la guerre idéologique est déclarée. J'espère qu'elle restera idéologique et non pas civile. On en parle avec François-Bernard Huyghe et surtout avec vous aussi, auditeurs de Sud Radio. Je vous attends.
On accueille tout de suite sur Sud Radio Jean-Paul qui nous appelle au 0826-300-300. Bonjour à vous Jean-Paul.
Oui, bonjour.
Bonjour à tous et merci de me prendre à l'antenne. Voilà, je voulais simplement dire que je trouve ces actes intolérables.
Et vous parlez de l'agression contre les étudiants à Rennes, c'est ça?
Tout à fait, oui. Sous couvert de soi-disant Antifa ou autre, parce que je trouve ça lamentable, minable, et je ne comprends pas que l'on n'intervienne pas contre cela. La France devient un pays où il est de plus en plus difficile de s'exprimer. J'ai l'impression que notre gouvernement laisse faire ça, alors je ne sais pas si ça lui sert ou pas, mais je trouve ça déplorable, et je ne comprends pas qu'on n'intervienne pas au niveau des universités, je ne comprends pas qu'on les laisse libres de leur parole, de leur mouvement, parce qu'eux ne veulent laisser personne libre de leur parole.
Ouais, c'est bien.
Ils se permettent tout, même de telles agressions, mais je sais pas, bon, moi je trouve ça inadmissible, et je ne comprends pas qu'on laisse faire cela. Voilà.
Oui. Non,
mais... Au nom de quoi, dans ce pays, on laisse faire cela?
Et oui, et au nom de quoi on empêche des intellectuels de s'exprimer, des professeurs, même des d'anciens présidents de la République, voyez. Et puis là, on agresse, effectivement, Jean-Paul, c'est assez grave, et c'est pour ça qu'on le dénonce de façon régulière.
J'avais peut-être une petite question d'ailleurs pour vous deux, André Berkoff et François-Bernard Huyghe, vous avez connu cette époque. Est-ce que ça n'a pas toujours été, je ne justifie pas, mais très violent, notamment ce genre de querelles entre groupes opposés au sein des universités françaises des années 60, par exemple, c'était
très féroce.
Il y avait beaucoup de violence dans les facultés. Moi, j'ai pas mal connu l'Italie, alors croyez-moi, les années de plomb, c'était pas seulement la barre de fer, c'était le P38, hein. Il y a une violence incroyable, mais c'était, alors je dirais que c'était une violence entre groupes organisés, hyper structurés idéologiquement, où on était trotskiste, où on était Mao, où on
c'est
était
ça, il y avait gauche et droite de façon très précise.
C'était les debout, dans une vie structurée. Là, on est devant ce phénomène des antifas. Qu'est-ce qui distingue un antifa d'un Mao comme ceux qu'on a pu connaître dans nos jeunesses? C'est qu'au fond, il n'est qu'antifa. Son unique fonction est
une fonction de
censure. Il ne décrit pas son état idéal qu'on pourrait comparer à celui du trotskiste.
De Mao ou de Pol Pot, par exemple, heureusement d'ailleurs.
C'était les exemples qu'il y avait cours.
Alors, est-ce que cette violence c'est illégal? Enfin, la police devrait intervenir. Bon, ça, personne ne doute de ça. Est-ce qu'elle est tolérée? On a beaucoup dit au moment des interventions des Black Blocs. Alors, bon, il faut un Black Bloc, c'est pas exactement la même chose qu'un antifa. Encore qu'il y a beaucoup de points communs. En tout cas, il y a un retour d'une violence qui se dit d'extrême gauche, qui n'est plus structurée. Ces gens-là ne font pas des meetings, n'ont pas une carte, n'ont pas un programme. Ils n'ont même pas de journal. Qui revient et qui, évidemment, joue un grand rôle, qui a, par exemple, complètement pourri le mouvement des Gilets jaunes avec des violences. Bon, j'ai assisté aux violences sur les Champs-Élysées, je n'ai aucun doute sur qui les a commises. Quoi.
En tout cas, on remercie Jean-Paul de nous avoir appelé. Au 0826-300-300, on trouve Jérôme qui veut parler de la réforme des retraites.
Oui, bonjour Jérôme.
Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour Monsieur Huyghe. Grand respect au professeur Alain Gaudry, pour sa déclaration, pour son courage. Moi, je suis un modeste conducteur routier.
Oui.
39 ans de route. ok, ouais. 30 mouvements de route, et depuis 5 ans, je roule sans permis de conduire. Du moins, mon permis est sur moi, un permis annulé.
Ah bon?
Depuis 5 ans, ouais. Avec ce permis annulé, je roule avec 3 relax de 3 tribunaux différents qui me disent que j'ai raison d'insister dans ma démarche.
Ouais.
Mon permis annulé, je demande à plus de 80 courriers à tous les organismes de l'État, au ministre Castaner, à Nunez, au président de la République, à Madame Macron et tout. Personne ne répond. J'ai le soutien de la députée LREM qui me soutient, qui fait des courriers et tout, ouais. Qui interpelle ces gens, rien.
Mais Jérôme, voilà. Dis-moi une question, est-ce que vous ne risquez pas gros en conduisant quand même, enfin, je dis ça pour vous, risque avec un gros. Permis annulé, vous risquez quand même très gros.
Évidemment, M. Berkoff, je risque tout. Mais je risque tout, d'accord, mais avec la complicité de l'autorité de l'État.
Et puis vous, vous avez besoin de vivre, c'est ça, c'est votre métier.
Bien sûr, M. Berkoff.
Mais alors attendez, juste un mot. Comment ça se fait que vous avez fait des démarches partout, vous dites que votre député vous soutient. Pourquoi on ne vous le réaccorde pas alors ce permis? Pourquoi on ne l'actualise pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi?
LREM.
Oui, non, mais justement, mais pourquoi on ne vous donne pas le permis? Pourquoi?
Ben pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi M. Castaner ne me répond pas? Je l'interroge par Twitter et tout. Il ne me répond pas.
Je vais vous dire une chose, Jérôme. Il écoute Sud Radio, Laurent Nunez aussi. Donc, ça m'étonnerait qu'il ne vous réponde pas, en tout cas en France, sorte qu'il vous réponde.
Merci à vous, Jérôme. Rappelez-vous quand même à la loi. On est obligé de vous faire ce rappel aussi sur Sud Radio. Et faites attention à vous et aux autres quand vous conduisez, si vous en avez le droit. 0826-300-300. On retrouve Béranger qui veut.
Non, je m'attends.
Allô, bonjour à vous, Béranger, vous êtes sur Sud Radio. Béranger,
est-ce que vous êtes sur Sud Radio?
Ouais, bonjour M. Berkoff, bonjour à toute l'équipe.
Bonjour.
Et bonjour au monsieur qui travaille avec vous, là, qui passe la parole, parce que je trouve qu'il est vraiment excellent. Ouais. Il roule des yeux, je trouve
c'est
super.
Il adore rouler des yeux, c'est son plaisir principal. Il fait que ça roule.
Ouais, il est très sympathique.
C'est un conducteur oculaire, oui. Dites-moi. Ouais.
Bon. Non, un petit peu en réaction par rapport aux nouvelles guerres idéologiques. En fait, tout ça, moi, je trouve que c'est assez normal parce qu'il y a une espèce de recomposition politique là, ces derniers temps. Parce que voilà, on sait qu'on a vu tout ce que les gouvernements ont mené comme politique, la gauche, la droite. Il y a pas énormément de différence en fait.
Ouais.
Certains vont vous dire oui, mais il y a toujours la gauche, oui, mais il y a toujours la droite. En réalité, non. On a des politiques plutôt libérales dans l'ensemble. On fait un petit peu plus de social quand on est à gauche. Et encore, le CICE, par exemple, avec Macron et Hollande, c'était la gauche. Hein. Bon, ouais. c'était pas vraiment du social, c'était plutôt du libéral. Donc, il y a une recomposition politique. Et pour moi, les luttes idéologiques, elles s'inscrivent totalement dans ce cadre-là. Quoi. Donc, il ne faut pas être surpris. Et après, une chose aussi, parce que j'entendais, vous preniez comme exemple tout à l'heure, là, des intolérants, des antifas ou des véganes qui veulent supprimer des peintures et tout, et qui représentent des scènes de chasse.
Oui.
En fait, tout ça, c'est des espèces de contradictions qu'on a tous en nous, quoi. C'est-à-dire que moi, par exemple, je mange pas trop de viande, ça me dérange pas d'en manger, mais je vois que des mecs qui bouffent de la viande tous les jours, sans réfléchir, qui achètent en supermarché en barquette de la merde, pleine de sel, pleine de merde. Je me dis, c'est pas possible. On peut pas faire ça, en fait. Donc, il y a une espèce d'équilibre, il y a une sorte d'équilibre qui est en recherche en chacun de nous. Et toutes ces contradictions-là, en fait, on les a en nous, quoi. Donc
c'est vrai, Béranger, mais juste un mot. La différence, quand même, entre vous et d'autres, peut-être, c'est que vous voyez ces gens manger dans les barquettes et vous estimez que c'est la merde. Et ça peut l'être tout à fait. Mais vous n'allez pas les buter ou les frapper parce qu'ils mangent ça. Vous leur dire, tant pis pour eux, ils mangent ça. Ou vous allez avoir l'envie de leur dire, ah non, ça doit être interdit, ces barquettes.
Ouais.
Dans vous.
Bien sûr. Ouais, pour moi, ça devrait être interdit, puisque. Mais ça, après, ça, c'est plutôt le rôle des pouvoirs publics.
Ouais.
C'est-à-dire que si les pouvoirs publics autorisent tous ces produits de merde vendus en supermarché remplis d'aluminium, je veux dire, il y a des bonbons pour enfants, je veux dire, il y a des trucs à base de dioxyde de titanium dedans, quoi. Et le ministère de la Santé, il laisse faire ça, quoi. Les gars, ils devraient être attrapés, on devrait leur coller deux claques et leur dire, c'est pas possible de laisser
vendre
des trucs pareils, c'est pas possible. Donc les gens, non, ils le savent pas, ou ceux qui le savent, ils n'achètent plus. Mais tout ça, voilà, c'est des contradictions qu'on porte tous en nous. Et on a envie de faire un peu mieux, de consommer un peu plus propre, un peu plus local, moins dégueulasse.
Tout
et
à
ça,
fait.
Forcément, il y a des gens qui vont être plus ou moins tolérants, c'est vrai, mais voilà.
Alors justement, François-Bernard Huyghe, c'est intéressant.
Je ne vais pas répondre sur la mauvaise viande de supermarché.
Non, mais non, juste un mot. Moi, je voudrais poser la question. Béranger, quand même, souligne quelque chose d'intéressant. Il dit effectivement que les gouvernements successifs ont mené plus ou moins la même politique. Oui. Il faut le dire, depuis 40 ans, il n'y a pas une rupture vraiment thématique, il n'y a pas une rupture profonde. En revanche, ce qu'il dit, c'est justement, on en a amené à ces contradictions. Qu'est-ce que c'est que ces, que sont ces contradictions ? Qu'on connaît, effectivement.
Alors, effectivement, bon, le vieux système gauche-droite, entre ceux qui étaient un peu plus libéraux sur les mœurs et ceux qui voulaient un peu moins de déficit, mais ne le faisaient pas, était très relatif. Mais justement, le macronisme a un peu éclaté ce système, qui se traduit de façon électorale d'une manière étonnante et hallucinante, en ayant un discours technocrate, pragmatique, l'idéologie c'est fini.
C'est ce qu'il était dans l'idée, c'est fini.
Alors évidemment c'est le discours le plus idéologique du monde que de traiter son adversaire d'idéologue et dire moi je suis dans la loi de la réalité,
moi,
de l'ouverture,
je suis
dans le sens de l'histoire et le sens de l'histoire va vers l'ouverture, le libéralisme, la société et la réforme pour plus d'efficacité. En plus ce n'est pas vrai, il suffit de regarder une carte électorale de l'Europe ou d'ailleurs pour voir que la thématique de l'identité, du refus de l'illibéralisme, etc., revient. Ce qui fait que, d'une certaine façon, appelons ça le macronisme composé avec des restes de la droite et de la gauche, dont on allait faire quelque chose de super pratique qui marcherait bien, est devenu, d'une certaine façon, le parti de la peur. Peur des gilets jaunes, peur des extrémistes, peur de la France d'en bas, peur de l'illibéralisme, etc. Et c'est ça le grand changement par rapport à l'époque. On savait que ceux qui étaient un peu plus sociodémocrates ou ceux qui étaient un peu plus conservateurs allaient alterner gentiment.
Merci en tout cas François-Bernard Huyghe. Merci André Bercoff. On se retrouve demain à midi dans Tous vos états sur Sud Radio en direct. Belle journée à vous. François-Bernard Huyghe, je rappelle la référence de votre ouvrage sur Sud Radio. Ça s'appelle La guerre idéologique. C'est publié. L'art de la guerre idéologique, je le répète. Justement, c'est publié aux éditions du Cerf. On vous retrouvera, j'imagine, dans d'autres émissions sur Sud Radio. La journée continue sur Sud Radio. Elle écoute notamment de Jacques Pessis en compagnie de son invité pour Les Clés d'une vie, Alexandre Pell. Il a été notamment, d'ailleurs, auteur pour Les Nuls, pour Groland ou même pour Les Guignols. Beau CV à venir dans Les Clés d'une vie sur Sud Radio. Belle journée à vous!